En pensant à ce baptême donc de Claudia qui vient d'avoir lieu, en pensant aussi à ce moment essentiel de la vie de l'Église qu'est l'Assemblée générale annuelle, j'ai choisi comme texte pour guider notre réflexion au cours de ce culte ces mots de l'apôtre Paul qui dit « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec les faibles, j'ai été faible afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver au moins quelques-uns. » Alors il me semble que ce texte « Je me suis fait tout à tous pour en sauver quelques-uns » pose quand même question. Est-ce qu'il s'agirait pour fonder l'Église de jouer sur la démagogie? Est-ce que c'est une manière de faire une sorte de publicité sournoise pour embarquer des personnes contre leur gré dans notre idéologie, dans notre chapelle finalement? De tels compromis, bien sûr, cadreraient mal avec la personnalité de l'apôtre Paul. « Je me suis fait tout à tous », c'est au contraire un projet généreux finalement, ambitieux, au service de chaque personne, pour la libérer et non pour l'endoctriner, non pour l'embrigader. Alors je vous propose d'entendre ce passage, donc c'est dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 9, les versets 16 à 23. Annoncer l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car en fait la nécessité m'en est imposée. Je suis triste si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon gré, j'en ai la récompense, mais si je le fais comme malgré moi, eh bien en fait c'est une charge qui m'est imposée. Quelle est donc ma récompense? C'est, en annonçant l'Évangile, d'annoncer gratuitement la bonne nouvelle sans user du droit que l'Évangile me donne. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis fait serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme les Juifs afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, je me suis fait comme sous la loi, et pourtant, je ne suis pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, je me suis fait comme sans loi, et pourtant, je ne suis pas moi-même sans la loi de Dieu, mais je suis sous la loi du Christ. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait vraiment tout à tous afin d'en sauver de toute manière au moins quelques-uns. Je le fais à cause de l'Évangile, afin d'être engendré dans la communion avec l'Évangile. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Alors je vous propose de chanter pour commencer à réfléchir sur l'annonce de l'Évangile pour fonder l'Église, le cantique 214 dans le petit recueil bleu Louange et prière, 214, les trois strophes de ce cantique sur ton Église universelle. Ô Éternel, au moment où nous allons méditer les Écritures, donne-nous d'y plonger nos visages comme dans une source inédite, qui éclaircisse nos voies, qui libère nos conversations, qui nous autorise à parler et à écouter. Donne-nous, entre les pages ouvertes, de sentir craquer la jointure de notre monde, de sentir trembler les portes de notre monde et les yeux souvent levés vers notre monde, d'entrevoir son ébranlement, de voir qu'il n'est pas fini. Donne-nous d'être intrigués, d'être retardés dans nos courses fébriles ou apeurées, dans notre lecture trop rapide, non seulement des Écritures, mais de nos existences, de notre temps, de notre monde. Je me suis fait tout à tous. Il y a là une révolution dans cette attitude que nous propose l'apôtre Paul, un virage à 180 degrés par rapport à ce qui se fait normalement. Cette révolution est un peu comme celle de Copernic, vous savez, quand ce savant, contre vents et marées, seul contre tous, a affirmé que non, en fait, le soleil ne tournait pas autour de la Terre, que l'univers ne tournait pas autour de notre petit nombril, mais que la terre tournait autour du soleil. Selon le sens commun, un apôtre, comme n'importe quel idéologue, comme n'importe quel chef politique, comme n'importe quel bon commercial, devrait dire « Rejoignez-nous, nous avons bien plus raison que les autres, notre produit est meilleur, d'ailleurs je vais vous révéler la vérité avec un grand V, celle de Dieu. Attention, surtout n'allez pas chez mon concurrent, il est dans l'erreur, il est méchant, il est dangereux. » Selon le sens commun, un apôtre devrait dire « Ne vous posez pas trop de questions sur ce que l'on vous dit de croire, faites ce que l'on vous dit de faire, pratiquez bien les rites et tout ira bien. Bref, rejoignez notre groupe et ne vous en écartez surtout pas. » Par rapport à ce sens commun, Paul propose une révolution copernicienne. Il nous dit qu'un apôtre fait l'inverse. Il sort, il va vers les personnes extérieures et au lieu de les formater, c'est lui qui s'adapte à elles. Il le fait non pour les ramener hypocritement à l'intérieur, mais pour les libérer, les envoyer à l'extérieur, tracer leur propre chemin. Et donc Paul se fait tout à tous. Il se fait comme juif avec les juifs, il se fait religieux avec les religieux, il se fait libéral avec les libéraux et il se montre faible. Il se reconnaît faible parmi les faibles, alors qu'il aurait pu, il aurait dû faire le fort, montrer qu'il détient la vérité, qu'il a l'infaillibilité, qu'il va nous l'apprendre. Voilà la vérité du bon Dieu, qu'il est savant, qu'il est fort. Paul se fait tout à tous. Ce n'est pas du clientélisme, mais c'est une façon de rejoindre l'autre là où il est, là où il en est, et au lieu de faire de l'autre son serviteur ou le serviteur de l'Église, de se faire le serviteur de l'autre. Parce que Dieu le premier, en Christ, eh bien, est venu nous rejoindre là où nous sommes et il s'est fait notre serviteur. Voilà, c'est la base de l'Évangile. Ça paraît évident, ça l'est pas tant que ça, en fait. Plutôt que d'inviter l'autre à devenir comme nous, l'Église, est, l'Église de l'apôtre Paul, est différente. L'apôtre Paul nous propose d'aller vers l'autre, de s'en approcher, d'essayer de le comprendre et de l'aider, non de le dominer et de le juger. Alors certaines personnes sont comme sous la loi, oui. Elles sont très attachées à ce que les choses soient faites tout bien comme il faut, dans les règles et dans les temps. Avec ces personnes, nous dit Paul, je suis comme sous la règle, pour les accompagner finalement, même si au fond, ces règles sont bien secondaires face à ce jaillissement de vie qu'est l'Évangile. Certaines personnes, elles aiment la variété, la créativité, elles ont un peu peut-être un côté artiste ou bohème, elles ont peut-être une passion pour le bouddhisme ou la culture papoue. Si on aime quelqu'un, bien nous l'accepterons comme il est, bien sûr. Nous l'accompagnerons sur cette route, même si, nous dit Paul, le Christ, avec le Christ, nous sommes dans la liberté, mais pas dans le n'importe quoi quand même. Certaines personnes ont un tempérament pessimiste. Nous pouvons faire l'effort de reconnaître, finalement, avec elles, le côté tragique de notre existence, de l'aventure humaine en ce monde. Même si dans l'Évangile du Christ, il y a une espérance qui transcende, qui relativise ce tragique, bien sûr. Telle personne, au contraire, a un tempérament optimiste et nous pouvons l'accompagner dans cette joie. Certaines personnes ont besoin que l'on prenne du temps pour elles. Nous prendrons du temps. D'autres ont simplement besoin d'un geste. Eh bien, nous en ferons un, nous en ferons même deux. Certaines personnes ont un tempérament mystique. Nous prierons avec elles. Certaines personnes ont soif de couper les cheveux des anges en quatre. Nous ferons de la théologie et de la philosophie avec elles. D'autres ont soif de solidarités humaines. Nous ferons du social avec elles. Certaines personnes sont souffrantes, même si cela les rend tristes, même si cela les gens les rend méchantes, haineuses, compliquées, sans jugement, nous aurons compassion, nous irons à leur côté. Nous nous ferons tout à tous, nous dit Paul. Nous rejoindrons l'autre là où il est. Nous nous ferons son serviteur et non son maître. Alors bien entendu, cette acceptation de l'autre n'est pas de la compromission. D'abord, parce qu'il ne s'agit quand même pas d'être voleur avec le voleur, pédophile avec le pédophile. Il est question d'aller vers tous et de le rejoindre. Dans sa culture, dans son rythme, dans sa façon d'être, dans ses besoins, dans sa souffrance, dans son espérance. Il s'agit d'accompagner. Mais c'est Dieu que nous suivons, c'est pas l'homme. Et puis dire l'Évangile, c'est pas seulement dire que Dieu nous accepte tel que nous sommes, avec nos faiblesses, avec notre méchanceté, avec notre péché. Mais annoncer l'Évangile, c'est dire aussi que Dieu nous appelle à cheminer, à aller de l'avant, qu'il nous appelle et qu'il nous aide à sortir de nos enfermements, de nos difficultés, de nos faiblesses, que Dieu se fait notre serviteur pour nous aider à nous mettre en route. Se faire tout à tous pour les libérer, plutôt que de chercher à modeler les personnes que nous rencontrons à notre image. Cette révolution, je crois que c'est un des éléments fondamentaux, vraiment, de l'Évangile, et c'est la caractéristique, normalement, de ce que devrait être une Église chrétienne. Alors le mot « Évangile », c'est bien connu, cela signifie « bonne nouvelle ». C'est tout banal, en fait. Mais si ce mot n'est en général pas traduit dans notre Bible, c'est que ce mot grec, oui, il désigne les bonnes paroles que Jésus nous a dites, bonnes nouvelles de la grâce et de l'amour de Dieu, mais ce mot grec, évangile, cette notion, elle désigne en même temps plus que ces quelques paroles que Jésus-Christ a dites et qui sont dans ce livre. Ça se décline effectivement en paroles vraies, intelligentes, sages et fortes. Mais l'évangile, c'est plus que ça. L'évangile, c'est avant tout une vie. L'Évangile, c'est le Christ, comme le Paul le dit ici même. C'est se décentrer de soi-même pour aller vers l'autre. C'est le faire, même peut-être par devoir, mais si possible finalement. Le faire par plaisir, comme le dit Paul. Le faire gratuitement. Le faire par intérêt pour l'autre, dans l'espérance qu'il sera gagné, qu'il sera sauvé, qu'il sera libéré. Voilà. Alors il faut s'entendre sur ce que l'on entend par agir pour l'autre pour qu'il soit sauvé, finalement, pour qu'il soit gagné. Il ne s'agit pas de gagner des scalps pour notre Église. Gagner une personne au sens de l'Évangile, ce n'est pas pouvoir la compter comme membre et qu'elle cotise chez nous, ce qui, bien sûr, est pourtant une excellente chose. Nous en parlerons cet après-midi. Mais gagner une personne, c'est la gagner à cette façon de faire, à cette façon d'être, belle et vraie qu'est l'Évangile. La gagner, c'est que cette personne soit sauvée de son enfermement sur elle-même et de ses autres enfermements. Et qu'elle se sente alors, comme Paul, envoyée, ce qui se dit en grec, apôtre. Qu'elle se sente l'envie et la force d'évoluer, qu'elle puisse déjà se mettre en route un peu librement, selon sa personnalité, accompagnée par Dieu. Sauver une personne, ce n'est donc pas l'enchaîner dans une communauté étroite. Ce n'est pas l'obliger à adopter des convictions, ni adopter mon rythme, mes pratiques. D'ailleurs, cette libération, c'est le sens même du mot « église ». « Ecclésia » en grec vient de « ek » hors de et « kaleo » appelé. « Ecclésia » signifie donc littéralement « être appelé en dehors », hors de chez soi, mis en chemin, mis en route, comme Abraham, le nomade. Et donc l'église, ce n'est pas une communauté fermée. La notion d'église dans le Nouveau Testament vient d'ailleurs de la notion hébraïque de « kaala » qui a le même sens d'appel finalement. Appel à sortir de chez soi pour aller là où Dieu nous appelle finalement. Voilà, comme Abraham, le nomade qui se met en route. Et donc fondamentalement, l'Église n'est donc pas au sens propre un rassemblement. Elle n'est pas au sens propre une communauté. C'est au contraire un appel à sortir, un appel à la liberté, un appel à partir en mission, finalement. Et le sens même du culte, ce n'est pas d'apprendre ce que l'on doit absolument penser pour être dans la vérité. Mais le culte, c'est plutôt essayer de faire résonner cet appel et ce goût d'évoluer. C'est d'essayer de donner à chacun, finalement, le goût de penser par lui-même, avec l'aide de Dieu, car c'est bien ça, finalement, que nous promet aussi l'Évangile. Le sens même du culte, c'est de se sentir appelé à sortir, appelé à mettre en route. Et nous avons de la chance, je crois, justement, pour nous aider à cette démarche. Eh bien, que l'oratoire soit un lieu baroque, finalement, qui ne ressemble pas à notre petit intérieur et à notre cuisine. C'est un lieu qui nous dépayse, et c'est pourquoi vous n'êtes pas obligé non plus d'être d'accord avec ce que raconte le pasteur du haut de sa chair, bien sûr. La prédication n'est pas faite pour qu'on soit d'accord avec. La prédication, elle est faite pour faire résonner un appel à sortir, un appel qui vient de Dieu, une libération. Elle est faite aussi pour proclamer la bonne nouvelle d'un Dieu sur lequel chacun peut compter pour l'aider à sortir librement, à sortir de ses propres sentiers battus, la bonne nouvelle de Dieu qui nous donne le courage de nous aventurer en eau profonde, qui nous donne le courage de nous décentrer un peu, de faire tomber nos barrières pour aller à la rencontre de l'autre aussi, pour aller vers de nouvelles façons de penser, pour aller vers de nouvelles personnes, non pour les saisir, mais pour les servir, se mettre, voilà, dans ce risque-là. Le rôle de l'Église, c'est ainsi d'aider chacun à se sentir envoyé. Mais l'Église n'est pas la communauté de ceux qui se sentent envoyés. Ou l'Église n'est pas le lieu où résonne cet appel de Dieu. Non, la référence, c'est le point de vue de Dieu. L'Église, c'est l'ensemble des personnes que Dieu appelle à sortir. Donc l'Église, c'est l'humanité tout entière. C'est pourquoi nous sommes envoyés vers chacun. L'Église, elle fait donc des envoyés, des apôtres. Dans un sens, l'Église, elle scie toujours un peu la branche sur laquelle elle est assise, libérant les gens en leur disant « Mais allez-y, sortez, pensez par vous-même. » Une secte, par contre, elle fait des prosélytes. Littéralement, un prosélyte, c'est une personne qui vient de l'extérieur et qui s'installe à l'intérieur. Une secte, elle cherche donc à faire entrer des gens dans la communauté pour qu'ils servent la communauté. Pour faire entrer les gens, le monde extérieur est alors présenté comme terrible, entièrement négatif, plein de choses épouvantables. Et l'intérieur est alors présenté comme le lieu de la vie, le lieu du partage, le lieu de la convivialité. L'enseignement est baptisé du nom de vérité et considéré comme la clé du salut éternel, bien sûr. Et ainsi, les gens, ils restent bien à l'intérieur de la communauté, bien au chaud. Et du dedans, ils crient vers l'extérieur pour que les autres gens entrent à leur tour et viennent au service de la communauté. Les opinions personnelles, elles sont alors suspectes, c'est du relativisme. Se faire tout à tous, s'oser dans la réflexion sur la psychanalyse, le bouddhisme ou je ne sais pas quoi, c'est de la compromission. Jésus a sans cesse été critiqué pour ça finalement. Il fréquente les gens de mauvaise vie, il ne respecte pas bien tous les commandements, il blasphème avec ses idées nouvelles, quel horrible libéral finalement. Il ose même critiquer les gens qui font des prosélytes, vous vous rendez compte? Lui, il appelle des personnes, mais pour les libérer, il les nomme apôtres, il leur donne la force et l'envie de s'en sortir par elles-mêmes, capables de guérir, de faire des miracles, d'annoncer la parole, de penser par elles-mêmes, de se risquer dans des rencontres, d'aller dans le monde, dans les villages et partout. Alors oui, les apôtres prennent un temps de ressourcement auprès de lui, puis ils repartent. Ils ne les gardent pas enchaînés dans la salle haute. Heureusement, il y a des gens qui servent l'Église. Et vous êtes nombreux ici, je vois plein de visages, de personnes qui choisissent de servir l'Église, de servir les autres dans l'Église, en donnant du temps, en donnant votre participation, en donnant de l'argent, en allant visiter des malades, en cuisant des gâteaux, que sais-je. Mais c'est librement, de bon gré. On peut aussi s'engager au service de l'autre, dans son parti, dans les parents d'élèves, dans son syndicat, dans les médecins du monde, que sais-je. Comme le dit l'apôtre Paul dans cette lettre, participer à l'annonce de l'Évangile, c'est un choix personnel, c'est une gourmandise, c'est un plaisir. C'est une joie, nous dit-il, de se faire tout à tous. Ce n'est pas une corvée, quelque chose d'avilissant, de sale, non. Se faire tout à tous dans l'espérance qu'une ou deux personnes puissent recevoir l'Évangile du Christ, c'est une gourmandise, c'est une joie, c'est un plaisir. Il y a déjà une première joie, je crois, et un enrichissement à découvrir ainsi une personne, sa façon d'être, de l'accompagner. Les sectes ont tort. Le monde extérieur n'est pas terrible, plein de négativité. Les athées ne sont pas des gens avec des sabots fendus aux pieds. Les gens sont adorables. Les gens sont formidablement touchants. Quand on les rencontre, il y a des gens pénibles, méchants, haineux, etc. Mais quand on les rencontre, qu'on les connaît un peu mieux, ben en fait, c'est des gens qui espèrent, c'est des gens qui essayent, c'est des gens qui souffrent finalement. Alors essayez comme on peut, après les avoir ainsi un peu découverts ces gens et aimés comme ils sont, nous pouvons essayer de leur dire l'appel et la promesse que Dieu leur adresse. Promesse de libération, promesse qu'ils aillent mieux. C'est comme un cadeau qu'on leur offre finalement. Et c'est une joie d'offrir un cadeau, ce n'est pas une charge, ce n'est pas dur. Alors comment le transmettre ce cadeau? Il y a là peut-être une difficulté. Nous avons reçu quelque chose finalement d'extraordinaire par la présence de Dieu en Christ. Cela peut nous donner envie d'être devant l'autre un « je connais mieux que toi le sens de ta vie et je vais te l'apprendre ». Alors c'est vrai que nous désirons apporter quelque chose à l'autre finalement. Mais ce que nous offrons, ce n'est pas une leçon, ce n'est pas une théologie, ce n'est pas une morale finalement, mais c'est une promesse et un appel de Dieu. Ce que nous offrons, c'est par cette annonce de la grâce de Dieu, par cette liberté que Dieu nous donne à chacun, c'est une liberté de penser librement, de penser autrement que nous peut-être. Et donc l'autre peut alors sentir qu'il a le droit de ne pas donner suite, qu'il n'y a pas de chantage. Et c'est agréable et facile l'un pour l'autre d'avoir cet échange, bien sûr, quand c'est comme ça finalement. Se faire tout à tous, c'est ainsi un projet ambitieux et généreux. C'est d'offrir tout l'Évangile à tous. tout l'évangile à toute personne sans discrimination. Parfois, nous nous auto-censurons nous-mêmes, finalement. Alors que là, Paul nous dit non, chacun a le droit de se voir offrir tout l'évangile, et pas simplement un petit bout d'évangile, simplifié ou limité à une petite morale bien raisonnable. Toute personne est digne d'être apôtre, carrément. Digne de réfléchir sur ce qu'elle croit, de prier à sa façon, de voir avec Dieu comment avancer sur la route qui est la sienne et vers qui il pourra aller. Parfois, nous nous auto-censurons. Telle personne, c'est un SDF. Non, ça ne l'intéressera pas. Telle personne est musulmane. Comment ? Ce n'est pas du respect si j'annonce l'évangile. Si, c'est du respect. C'est la reconnaître comme humaine et la reconnaître comme libre de dire « ça ne m'intéresse pas, c'est tout ». Et chemin faisant, finalement, dans cette rencontre avec l'autre, dans ce cheminement avec l'autre, comme le dit l'apôtre Paul à la fin de ce passage, il sent qu'il est engendré dans la communion de l'Évangile, dans ce décentrement de soi, finalement, dans cette participation à l'appel de Dieu, avec et pour ses frères et sœurs. Oui, l'homme naît et grandit à une humanité nouvelle, une humanité réconciliée, une humanité solidaire et reliée avec Dieu. Amen.